Bonjour. Elle avait pourtant bien commencé cette année 2020 au nom prédestiné pour célébrer le vin. Notre troisième saison commençait bien et nous nous étions même réunis le 20 février avec d'autres winecasters pour vous rencontrer, chers auditeurs et auditrices, et fêter cette nouvelle façon de parler de vin depuis un micro directement dans vos oreilles. Mais la suite fut quelque peu chaotique. Un virus s'est invité à la fête. À l'heure où nous parlons, un deuxième confinement tente de contenir la deuxième vague de Covid, qui est certes moins contraignant pour la filière car les cavistes sont restés ouverts, mais que dire des restaurants, des cafés et des bars à vin, dont beaucoup sont en danger de fermeture malgré les dispositifs gouvernementaux. Pour finir l'année, nous avions rêvé, nous à la Terre à Boire, de réunir à nouveau la famille, s'offrir un repas de fête et présenter les vins pour l'accompagner dans un épisode fleuve où toutes les voix de la Terre à Boire seraient réunies, des invités autour de la table et même des surprises. Au lieu de cela, confinement oblige, nous voilà réunis à la portion congrue qui se trouve aussi être celle des origines de ce podcast. Trois copains qui vous parlent des vins qu'ils aiment. Ce n'est que partie remise, bien sûr, et l'enthousiasme est toujours là pour explorer de nouveaux territoires sur ce sujet infini. Ce sera l'année prochaine, si Dieu nous prête vie, et Saint-Manu nous autorise à sortir de chez nous. Ce 71e épisode s'intitule « Adieu 2020, vive 2021 ». Bienvenue dans la Terre à Boire. Bonjour Laurent Dessault.
Bonjour Romain.
Bonjour Patrice Defay.
Bonjour.
Bon, ben je le disais, on se retrouve là tous les trois, comme au premier jour de ce podcast, au premier épisode où on avait monté ce projet. Depuis, il y a pas mal de monde qui est venu parler dans ces micros. Comme je disais dans l'intro, bon, un épisode de Noël, ça aurait été sympa de réunir tout le monde, mais on est là. On n'a pas trop le choix, on peut pas vraiment réunir la grande famille, mais qu'à cela ne tienne, ça nous empêchera pas de passer un bon moment et de déguster quelques vins en partageant un bilan de l'année qui nous semble intéressant de faire en ce mois de décembre, et puis surtout en partageant des coups de cœur et des thèmes dont on a envie de vous parler parce qu'ils nous tiennent à cœur. Qu'est-ce que vous en pensez de ce programme ?
Je pense qu'on est autour de la table, on est content d'être là. C'est effectivement dans cette période un petit peu tumultueuse, plutôt même très calme de mon point de vue. J'ai quand même le plaisir de parler de vin sans avoir des clients mais des auditeurs avec la Terre à Boire, donc ça c'est super.
Ouais, voilà, c'est ça, les auditeurs à la place des clients, et ils payent moins, je suis désolé de te le dire,
c'est pas grave,
ils nous font pas vivre, mais ils sont là et fidèles et on les en remercie. Patrice, ça te va ce programme, toi?
Bah moi très bien, effectivement c'est parfois nécessaire, surtout quand c'est dans le tumulte, de revenir aux sources. Donc on va dire que c'est un retour aux sources, à notre corps défendant, mais voilà, on va repartir de la base.
Et puis 2021 sera plus souriante, j'en suis sûr.
Ça ne peut être que plus souriant, effectivement.
Ah, ça je sais pas. Il faut toujours se méfier avec ce genre de phrases.
Ah non.
Commençons justement par un peu de réjouissance avec un domaine, Laurent. On va commencer par un coup de cœur, on va laisser le bilan pour plus tard. Un coup de cœur, un domaine dont tu as envie de parler depuis un bon moment. Ça fait un moment que tu nous parles de ce domaine et de ce vigneron.
Oui, effectivement, ça fait un petit moment, pour la bonne et simple raison, c'est que c'est le premier vigneron qui a franchi les portes du Wine Therapy le jour même de son ouverture. Donc c'est Olivier Faucon, du Mascombarella.
Domaine Mascombarella.
Qui est situé donc dans l'appellation Terrasse du Larzac.
Et magie du podcast, Olivier Faucon est au téléphone.
Il est avec nous.
Bonjour Olivier Faucon.
Bonjour Romain. Bonjour à tous.
Enchanté. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à l'invitation de Laurent. Vous êtes donc à la tête du Mascombarella. Je vais laisser Laurent nous présenter un peu vos vins, votre domaine et pourquoi il les aime tant.
Donc effectivement, la raison pour laquelle j'aime beaucoup Mascombarella, c'est parce que j'ai goûté les vins et que j'ai apprécié, que Olivier est arrivé de façon complètement surprenante le jour de mon ouverture avec son premier millésime, hein, c'était du 2016 je crois, quand on était en novembre 2017. Donc c'était ton premier millésime sous l'étiquette Mascombarella, et depuis je suis allé plusieurs fois au domaine, évidemment, parce que c'est une région magnifique, parce que Olivier est sympathique, il est accueillant et que ses vins sont juste très très bons. Et donc voilà pourquoi j'ai envie de parler du domaine. Maintenant Le parcours d'Olivier est aussi quelque chose qui m'a interpellé, puisqu'on est sur un projet de reconversion. Olivier est ce qu'on appelle un néo-vigneron. Et j'aimerais bien, d'ailleurs, Olivier, que tu nous racontes un petit peu comment tu as décidé d'être vigneron. Et puis après, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi les terrasses du Larzac pour t'installer?
Alors, une des raisons pour lesquelles je suis devenu vigneron, c'est que je suis un passionné de vin depuis un petit moment, mais j'étais amateur, donc j'aimais surtout boire du vin, en acheter, en découvrir, en goûter, voilà, un petit peu comme beaucoup de gens. Je suis toujours un amateur de bande dessinée, et puis je suis tombé sur la lecture des Ignorants, donc la BD écrite par Davodo et qui raconte son initiation croisée avec Richard Leroy. À un moment où j'étais en train de réfléchir justement à changer de vie, à changer de métier, en tout cas à faire un métier voilà qui soit porteur de sens et qui me plaise. Le vin faisait partie de mes options potentielles, mais bon, mon parcours précédent était plutôt orienté sur la communication, le marketing, etc. Donc j'aurais pu croiser différentes choses sans avoir pensé à devenir vigneron. Et en lisant cette BD, l'histoire de Richard Leroy, qui lui-même était cadre dans la finance, dans la banque précédemment.
Vous êtes reconnu.
Je me suis un petit peu projeté, et puis le nom des Ignorants m'a beaucoup parlé aussi, en me disant moi je connais pas grand chose, donc ça me plairait bien. Donc j'ai commencé par retourner à l'école, voilà. Donc j'étais faire ma formation en Bourgogne derrière. Et puis j'arrivais, moi j'étais plutôt un citadin, un urbain, je suis arrivé à travailler sur un métier plus manuel que ce que je faisais précédemment. Donc j'ai découvert les vinifications, les vendanges, je travaillais la vigne et puis ça a été le coup de cœur. Donc j'ai eu envie de continuer. Et donc pour répondre à la deuxième question sur l'endroit, j'étais en Bourgogne parce que il y avait de très bonnes formations et puis c'était un bon point de départ pour commencer. J'étais personnellement attiré par le sud, par le Languedoc, par les opportunités qui s'y présentaient.
Est-ce que c'était les vins que vous préfériez au départ ou je vais vous tutoyer parce que Laurent vous tutoie. Alors moi je suis jaloux, je te dis.
Oui,
désolé.
Oui, on se tutoie. Voilà.
C'était des vins déjà
que j'appréciais, mais pas de manière exclusive. Après la région me plaisait, j'étais venu en vacances, j'avais découvert précédemment, mais je la connaissais pas très très bien. Mais ça faisait partie des secteurs qui m'intéressaient. Donc à la suite de ma formation, enfin dans le prolongement de ma formation, en fait, j'ai continué mes apprentissages et en dégustant une bouteille d'un vigneron des terrasses du Larzac quand j'étais à Bonn, j'ai eu un coup de cœur sur un équilibre de vin, sur la générosité du sud, la fraîcheur qui était associée, sur les équilibres.
C'était quel vigneron?
Alors c'était Vincent Goumard au Mascal des Mourats.
D'accord.
Et donc je l'ai contacté derrière et puis je lui ai raconté mon histoire. Lui-même était aussi quelqu'un qui avait fait une reconversion professionnelle il y a quelques années. On s'est bien entendu. J'ai travaillé 6 mois chez lui, donc au cœur des terrasses du Larzac. Et ensuite j'ai cherché des vignes ou un domaine à reprendre dans un périmètre, on va dire, à 200 km à la ronde. Et en fait j'étais vraiment tombé amoureux du secteur, quoi. Des terroirs, des paysages, des vins, des gens que j'avais rencontrés. C'était l'endroit où je devais être. Donc je me suis installé à une petite dizaine de kilomètres de mon point d'arrivée dans l'appellation des terrasses du Larzac.
Et c'était donc un domaine qui existait. Comment ça s'est passé?
Alors c'était pas un domaine qui existait. Sur une reconversion professionnelle au début, je me suis dit c'était plus facile de partir sur un domaine existant parce que les choses étaient mises en place. J'ai eu des opportunités, j'ai eu des échanges et j'ai pas trouvé chaussure à mon pied, j'ai pas trouvé ce qui me plaisait. En parallèle, en ayant travaillé sur place, en ayant rencontré des gens, le bouche à oreille a un petit peu fonctionné. Puis j'ai eu écho de vignes qui étaient à vendre. Et c'était des vignes en fait qui appartenaient à des coopérateurs. Donc ils étaient viticulteurs et ils livraient leurs raisins à la cave coopérative. Donc il n'y avait pas de vin qui en était issu en tant que tel. Il était tout était mélangé avec tous les autres producteurs. Donc j'ai trouvé ces vignes et ces terroirs, donc des vignes qui avaient entre 10 et 70 ans. Et je me suis dit pourquoi pas. C'était l'occasion aussi de créer, de partir d'une page vierge et de faire des vins qui puissent être à mon image aussi et qui puissent en tout cas, enfin, avoir la liberté complète de faire ce que j'avais envie. C'était l'intérêt.
Et comment, voilà, face à des hectares qui ont donc été jusqu'ici toujours vinifiés en coopérative, donc vous pouviez pas goûter les vins que ce terroir-là avait produit. Acheter des terres, sur quels critères on achète des terres? Vous dites le coteau plutôt que la plaine, les vignes vieilles plutôt que les vignes jeunes. C'est en plus c'est un investissement important. Donc comment on fait ce choix?
Alors le choix il se fait. Il y a une part subjective et une part objective. La part subjective, elle est au final assez importante parce que une vigne, bah, ça a une allure, c'est dans un paysage, c'est dans un cadre. On voit les sols, on voit l'environnement qu'il y a autour, on voit l'état des vignes aussi, etc. Donc il y a une part coup de cœur aussi. J'ai acheté auprès de deux personnes qui partaient en retraite à quelques mois d'intervalle, donc à deux vendeurs différents. Et les premières vignes que j'ai trouvées qui sont à Arboras, en altitude, tout de suite en arrivant sur la parcelle, j'ai eu une sorte de coup de cœur en me disant j'adore, j'aimerais bosser ces vignes-là, j'aimerais bien être à cet endroit-là. Il y a un feeling, quoi. Voilà. La première chose, c'est un feeling. Après, la deuxième chose, pour avoir une part d'objectivité dans tout ça, parce qu'effectivement moi en tant que néo-vigneron et comme on le disait tout à l'heure relativement ignorant quand même sur le sujet, on se renseigne auprès des appellations pour savoir si les terres ont été classées en appellation. Donc là en l'occurrence Terrasse du Larzac, il y a eu tout un cahier des charges qui a été mis en place et puis il y a eu des commissions, des experts qui sont passés, qui ont analysé les différents terrains, les différentes vignes et qui ont classé les vignes dans l'appellation sur des critères qualitatifs. Donc ça donne une garantie qualitative, on va dire standard.
Vous savez d'emblée que vous allez pouvoir faire un vin d'appellation, vous serez pas dans.
On sait exactement. On sait qu'on va faire un vin d'appellation, et là les vignes dans le secteur sont toutes peuvent être classées soit en AOC, donc Languedoc, Terrasse du Larzac. Donc Terrasse du Larzac, c'est vraiment dans ce secteur-là, en tout cas, c'est un critère qualitatif et c'est effectivement une belle référence. Et puis après, eh ben, ce qui compte également, c'est l'avis des gens du secteur, donc les gens que j'ai pu rencontrer et notamment les vignerons qui sont dans le coin depuis quelques années et certains quelques décennies. Donc j'ai pu glaner quelques informations, avoir des avis, avoir des gens qui connaissaient les parcelles pour dire qu'est-ce que t'en penses et puis valider un petit peu mes choix de néo-vigneron. Voilà.
Et est-ce que alors je sais pas si quand on démarre ça intéresse ou pas en tant que tel, est-ce que vous avez demandé l'avis des gens, mais est-ce que vous avez regardé l'avis des sols? Est-ce qu'il y avait eu de la chimie? Est-ce qu'il y avait eu de la chimie sur ces terres? Est-ce qu'il y avait eu?
Et il y avait eu de la chimie sur ces terres. Il y avait eu de la chimie sur ces terres. Moi, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai fait, j'ai tout converti en bio. Mais effectivement, c'était des vignes de coopérateurs, donc ils travaillaient de manière
traditionnelle,
comment on va dire, voilà, donc
chimique,
comme on dit poliment, avec quand même la particularité qu'on est dans le Languedoc, dans les terrasses du Larzac, donc on a du soleil, on a beaucoup de vent, on a des secteurs donc qui sont quand même moins sensibles aux maladies que d'autres régions, avec plus d'humidité en l'occurrence. Donc les traitements étaient pas.
Ils n'avaient pas chargé la mule, quoi.
Ils n'avaient pas trop chargé la mule, effectivement. Alors après, il y avait un peu de désherbage qui était fait de manière chimique les années précédentes, je le savais. J'ai même une vigne, un vieux cinceau de 50 ans dans lesquels j'ai dû enlever les bâches plastiques qui dataient de l'époque de la plantation, qui étaient restées dans les vignes parce que voilà, le sol n'avait pas été travaillé. Donc on part d'un existant et puis après, ben on met tout ça en ordre avec la philosophie qu'on a envie d'appliquer, quoi.
Et un des avantages au fait d'acheter quelque chose comme ça, donc juste des vignes, c'est que tu as pu, ça tu le précises pas, mais que tu as pu donc construire ton propre chai, selon ta propre idée de ce que tu voulais faire, et puis en parallèle aussi de construire ta maison au milieu de tout ce joli paysage.
Exactement, exactement. Alors au début, l'idée, moi j'adore les vieilles pierres, les vieilles bâtisses, etc. Ça aurait été génial de trouver quelque chose qui est un peu le cachet de l'ancien, on va dire. Mais il n'y a pas beaucoup d'opportunités non plus, donc on arrive à trouver des vignes, même si maintenant c'est plus difficile. Trouver des bâtiments, ça faisait partie des problématiques. Donc j'ai été hébergé pendant 2 ans, donc dans un domaine qui avait cessé son activité et qui accueillait plusieurs vignerons un petit peu sous une formule de pépinière de nouveaux installés. Et l'intérêt, effectivement, de reprendre ces vignes, c'est d'avoir la possibilité de construire au milieu des vignes en mettant en signé sur tous les critères, qui s'appliquaient. Alors, en sachant qu'on peut pas le faire dans toutes les communes, il y a des communes qui sont plus ouvertes que d'autres. Donc à Saint-Jean-de-Post, où on a construit, on s'était renseigné, on a été bien accueillis. Et puis il fallait aussi avoir une surface de vigne conséquente, suffisamment conséquente pour prouver qu'on est sur une logique d'installation durable, et que ça soit une activité pérenne et que ça soit une activité principale qui permette effectivement de construire des bâtiments et accessoirement d'y faire sa maison à côté, quoi. Donc ça fait partie des choses qui sont, les paysages sont protégés et les autorités veillent au grain pour ne pas laisser n'importe qui faire des constructions dans tous les sens.
D'accord. Et donc maintenant c'est peut-être le moment de parler de tes vins. Quand je t'ai rencontré, donc on était sur le millésime 2016. À l'époque, ce qui m'avait vraiment séduit dans ta gamme, c'était tes deux cuvées monocépages, savoir les vieux Mazets en vieux Carignan et le Clos Secret en Cinsault.
Peut-être faire un tour juste très rapidement des cépages que vous avez à disposition sur le domaine, combien d'hectares, combien de cépages, et après on parle des différents.
Alors j'ai 11 hectares et j'ai désormais 9 cépages. Donc j'ai tous les cépages en rouge, les cépages languedociens, on va dire. Donc du Carignan, Grenache, Cinsault, Syrah, et j'ai surgreffé du Mourvèdre, donc qui est rentré en production en 2018. Je l'avais pas initialement. Et en blanc, j'avais que du Carignan blanc. Et puis, de la même manière, je voulais également travailler d'autres cépages. Donc, j'ai aussi fait du surgreffage et j'ai fait rentrer en production l'an dernier du Carignan blanc, du Vermentino et du Chenin.
Ton cépage d'origine, c'était le Grenache blanc, hein, c'est bien ça?
C'est le Grenache blanc, oui. Ouais.
Vous avez dit, t'as dit Carignan blanc au départ. Ouais,
on a raccroché les wagons.
Grenache blanc Carignan blanc.
Exactement, exactement. Grenache blanc à l'origine, j'ai rajouté le Carignan blanc, le Chenin et le Vermentino.
Alors, ce vin?
Donc là, en fait, en 2017, j'avais goûté ces deux cuvées monocépages, parce que tout simplement, la petite cuvée qu'on a ce soir, qui est ta grande cuvée, l'Ode aux ignorants, n'existait pas encore. Elle n'était pas encore en bouteille, tout simplement.
Elle n'était pas en bouteille parce que l'élevage est plus long. Donc on est sur 2 ans d'élevage, donc il fallait qu'elle ait le temps de se finaliser et de sortir.
Donc on a ouvert ce soir une bouteille. J'ai sacrifié une de mes quelques bouteilles allouées.
T'insistes un peu sur le message, non?
Je crois qu'il en voudrait un peu plus, Olivier, mais bon.
Non, mais 2018 j'en aurais plus, mais là effectivement 2017 j'ai été un petit peu frustré.
Oh la négo en arrière-plan, j'hallucine.
N'utilise pas ce podcast pour faire tes négos commerciales, s'il te plaît.
Donc on est donc sur l'Ode aux ignorants 2017. Là, on est en train de faire exactement ce que je déconseille à tout le monde, c'est-à-dire que j'ai reçu les vins du domaine hier. Je crois que c'est oui, ils ont été livrés hier et j'ouvre déjà une bouteille, alors que normalement je dis il faut les laisser un petit peu se reposer, etc. Donc j'espère que le vin va être à la hauteur de ce que je connais et que le transport va pas l'avoir trop chahuté, quoi. Mais parle-nous un peu donc de l'Ode aux ignorants.
Et ben l'Ode aux ignorants, donc c'est donc comme tu le disais, c'est ma quatrième cuvée en rouge, donc quatrième dans le sens où j'ai une première cuvée découverte en Languedoc, et puis après j'ai deux monocépages qui sont donc articulés autour du Cinsault et du Carignan. Donc ma première cuvée en Languedoc, elle est articulée autour du Grenache, et Ode aux ignorants, donc on est sur un assemblage de 3 cépages principaux. Il peut y avoir des petits cépages en complément, mais principalement, donc on est autour de la Syrah. Donc il y a la moitié de Syrah sur cette cuvée. et du Carignan et du Grenache. Et donc le.
Et une pointe de Cinsault, non?
Et une pointe de Cinsault, voilà. Ça peut être une pointe de Cinsault où je peux avoir mis une pointe de mauvaise.
Pour rassurer tous les auditeurs, je l'ai lu sur l'étiquette et absolument pas senti en dégustation.
Comme il l'a raconté là.
J'étais sur le cul là, la pointe de Cinsault.
Pointe de Cinsault. Moi j'ai trouvé un peu de roquefort.
On est à 2-3%, donc voilà, c'est un peu marginal. Mais en gros, il y a la moitié de Syrah. Il y a à peu près la moitié de Syrah, suivant les millésimes. Et la particularité, bah, c'est que c'est un vin donc d'assemblage, et on est sur un assemblage de cépages qui viennent de la même parcelle.
Donc j'ai parlé de plantation.
Alors c'est pas de la complantation, mais en fait donc je vous ai parlé de toutes ces parcelles que j'ai achetées là pour commencer faire le premier millésime en 2016, et donc celle en altitude dont je parlais à Arboras, on y trouve de la Syrah, du Carignan et du Grenache. Et donc la première année où l'ignorant que j'étais avec ma femme et quelques copains qu'on a fait venir, où on a fait des assemblages, on avait une feuille vierge, on savait pas sur quoi on allait partir. Et puis on a commencé par cette cuvée et on a pris ce qui nous semblait être les jus les plus intéressants de ce qu'on avait. Et puis de manière un petit peu magique, on a pris les cépages qui venaient, les vins de la même parcelle, en fait, de l'îlot de vigne qu'on avait, qu'on a mis ensemble, et ça s'est emboîté de manière magique, ça s'est vraiment bien assemblé ensemble. Donc ça a été un petit peu la dimension terroir aussi qui a fait qu'on est sur une parcelle en altitude. On est à 350 mètres. On est sur des sols, donc on est argilo-calcaire partout, mais là on est en termes géologiques, on est sur les plus vieux calcaires. Donc on est sur l'ère secondaire époque jurassique, voilà, pour ceux à qui ça parle. Donc c'est des calcaires marins. On est en altitude. Les cailloux, c'est des blocs, quoi. Il y en a certains, donc certains qui font la taille du poing, mais en général ça fait la taille presque d'un ballon de foot. Donc on est vraiment sur des gros cailloux. Et les racines vont en profondeur aller chercher leurs nutriments, leur eau, etc. Et on sent qu'il y a une complexité, qu'il y a un effet terroir qui est assez prononcé. Et la Syrah qu'on a à cet endroit-là, elle n'a pas le même goût que celle qu'on peut avoir sur une autre parcelle qui est plus variétale, en fait, qui est plus sur les profils classiques de Syrah. Et donc celle-ci, elle va nous amener vraiment une touche terroir intéressante qui va marquer ce vin.
Et après, en termes d'élevage?
Donc là, on est sur le millésime 2017. En fait, toute la première partie de l'élevage, elle est faite en barrique principalement. Enfin, en barrique non, pour moitié. Donc, c'est essentiellement la Syrah et le Carignan qui vont aller en barrique. Et puis après, je travaille avec des œufs béton. Donc, les œufs béton qui apportent aussi une finesse dans l'élevage, qui apportent de la complexité, mais sans marquer les vins en termes de bois. Donc, le tout, c'était de trouver un petit peu un équilibre entre tout ça. En termes de barriques, c'est pareil, je travaille avec une diversité de barriques en m'étant installé récemment, donc j'ai acheté un petit peu de barriques neuves, puis j'avais aussi quelques barriques d'occasion de domaines avec qui j'ai travaillé, en qui j'ai confiance pour compléter le parc, et puis pour avoir des choses qui soient pas trop marquées en termes de boisé. Donc il y a un panachage entre des petits formats, donc les barriques bourguignonnes, les demi-mûtes 500 litres, et puis des toutes nouvelles et des plus anciennes qui vont jusqu'à 5 à 10 ans. Donc ça permet d'avoir de la diversité. Et au bout d'un an et demi, on fait l'assemblage de tout ça. Et les 6 derniers mois, je les mets dans une grande cuve béton pour que tout le monde, pour que les différents cépages fassent leur connaissance ensemble et s'intègrent, s'harmonisent et que ça puisse se poser un petit peu, quoi.
Est-ce que on pourrait l'eau d'os ignorant, qui est donc un hommage, hein, vous l'avez dit, à la BD qui vous a un peu inspiré dans le souhait de devenir vigneron.
Exactement.
Est-ce que l'eau de vigneron correspond à l'idée de vin que vous aviez? C'est une question que j'aime bien poser aux vignerons, que vous aviez au départ. Parce que moi, je suis assez admiratif de ce que vous décrivez, parce que c'est vraiment un saut dans le vide, et en même temps, c'est très mesuré et très raisonné, même si vous avez dit, on laisse la place au subjectif, mais est-ce qu'il y avait une idée de vin, par exemple, ou est-ce que, il se trouve que maintenant, ça va être, ma tête de cuvée, c'est, j'allais dire une Syrah, c'est pas tout à fait une Syrah, c'est un assemblage, c'est le vin que vous venez de décrire, mais est-ce que c'était, ça correspond, vous êtes satisfait, vous êtes dans le, ça correspond à l'idée que vous aviez du vin que vous vouliez faire.
Pour être honnête,
sans verser dans l'autosatisfaction, mais allez-y, dites-nous.
Non, je vais pas. Au contraire, je vais pas verser dans l'autosatisfaction parce que j'étais dans une démarche d'exploration en fait au début. Donc j'avais des intuitions, j'avais envie d'explorer les cépages. Donc c'est pour ça que dès le début j'ai fait quatre vins en rouge et chacun articulé autour d'un cépage et parce que je trouvais ça intéressant quoi. Les monocépages sur les vieilles vignes, c'était des choix de mettre en avant les cépages un peu mis de côté, arraché à une certaine époque, que sont le Cinsault et le Carignan. Et là sur cette cuvée là, c'était effectivement aussi cette dimension terroir qui a primé. Après, avant de les construire, pour être honnête, je vais pas dire que je savais pas où j'allais. Je savais où j'allais en termes de vinification, de méthode de travail, d'attention aux détails sur l'hygiène, sur le contrôle des températures, sur toutes les choses que j'avais un peu apprises, mais comme on le disait tout à l'heure, je connaissais pas mes terroirs en fait. Enfin, je les connaissais pas bien quoi. Je connaissais pas encore bien mes vignes. Je savais pas ce qu'elles allaient donner exactement. Donc la composition des vins jusqu'à faire ce travail d'assemblage, je le connaissais pas encore. Après, au fur et à mesure, la 2020, c'était mon cinquième millésime, donc les choses se mettent un petit peu plus en place, on commence à comprendre, on sent les choses déjà dans les raisins qu'on va goûter à la parcelle, etc. On sent les profils qui évoluent et puis on peut déjà anticiper un petit peu plus, quoi. Mais la première année, l'idée c'était de faire des vins qualitatifs. Je cherchais pas la quantité, je cherchais la qualité. Je cherchais des choses élégantes et je cherchais des vins pour déjà me faire plaisir à moi, parce que je commençais, je savais pas qui allait m'acheter mes vins, et je me disais si ça met un peu de temps à se mettre en place, avant de rencontrer Laurent, avant de rencontrer voilà tous ceux qui sont devenus nos ambassadeurs aujourd'hui, on s'était dit on a envie de faire les vins un petit peu à notre image, puis qu'on a envie de boire aussi quoi, donc on a cherché un peu les formules un petit peu au fur et à mesure. Mais après la je dirais c'est au final, ça semble compliqué, mais c'est pas si difficile que ça. Quoi. La construction des gammes de vins et la construction des assemblages, c'est de la dégustation. Donc, si on aime le vin, on goûte et puis on s'amuse à assembler, tout comme moi, je peux encore le faire aujourd'hui. On s'amuse à le faire sur des repas avec des amis. Si on ouvre plusieurs bouteilles, on peut essayer d'assembler différentes régions. On peut s'amuser à créer. Il suffit de mélanger des vins et puis de créer un nouveau goût à partir de choses existantes. Donc voilà, ça s'est fait un peu à tâtons, mais au final de manière assez naturelle.
Patrice, Laurent. Votre avis, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce vin? C'est croquant, rafraîchissant. Qu'est-ce que vous diriez?
Moi, je dis toujours que c'est des vins qu'il faut boire en dessous de la température de la pièce. Là, il est un petit peu frais. Je l'ai servi un peu frais. Je trouve qu'il dévoile pas encore tout, mais on est vraiment, on a un fruit noir mûr. On sent vraiment le vin du sud, mais en même temps
ça reste frais quand même.
On a une sacrée fraîcheur effectivement, et bon, quand on connaît, enfin quand on voit la parcelle sur Arboras déjà, on se dit que il y a pas de secret, ça produit des raisins qui ont une belle acidité et ça se transmet dans le vin. Un des éléments marquants, je trouve, là, c'est que l'élevage, c'est vraiment bien, c'est bien intégré dans le vin. J'ai souvenir d'avoir goûté, alors c'était peut-être sur le 2016. Je me demande si t'avais pas un petit peu,
abusé sur le bois.
T'as dû faire évoluer peut-être, l'élevage ou je l'ai bu peut-être trop tôt, je sais pas, mais en tout cas là. J'avais ce souvenir un peu vanillé que j'ai pas du tout là sur ce que je bois ce soir et qui fait que je suis vraiment super content d'avoir ouvert une bouteille.
Patrice,
de manière générale, alors c'est pas très original de le dire, mais je suis assez fan du Terrasse du Larzac, que ce soit au Pillac, Saint-Sylvestre ou tous ces domaines-là. Enfin, on est typiquement sur l'expression, on va dire, du Terrasse du Larzac, c'est-à-dire effectivement beaucoup de richesse, beaucoup de fruits, mais un équilibre génial, quoi. Vraiment, enfin c'est hyper agréable à boire. Il y a, je vais pas employer le terme parce qu'il est beaucoup galvaudé et puis il y aura une émission là-dessus, mais il y a non mais ça effectivement ça
il veut le dire,
reste, ça reste sur les parois de la bouche, on sent qu'il y a du rocher derrière. Je vais pas dire de la minéralité, mais on sent un effet terroir qui est présent. Et voilà. Et donc du coup, ça donne de la structure et de la longueur au vin, sans que ce soit galvaudé ou menteur. Donc c'est un vin sincère.
C'est pas un vin qui est maquillé pour te séduire.
Voilà, c'est ça. La longueur est faite sur la. Plutôt sur le terroir et encore une fois pas de la minéralité mais un truc qui reste au niveau des papilles et qui structure la bouche et puis on va dire qu'à l'intérieur de cette boîte structurée en pierre là on a un peu tous les arômes de fruits qui tournent donc voilà c'est ce que moi j'aime beaucoup dans les terres du Larzac donc pour un coup d'essai c'est un coup de maître.
Wow. Et donc moi je suis très content d'avoir commandé quelques magnums que j'ai tout de suite mis dans le fond de ma cave pour les oublier quelques années.
Ça, c'est une question que j'aimerais poser. Ça, combien de temps de garde sur un vin comme celui-là? Parce que ça va se bonifier,
ça,
non?
Ça peut durer, je pense, encore pas mal de temps. On est sur un 2017. Je pense que jusqu'en 2030, on est bien.
Qu'est-ce que t'en penses, Olivier?
Olivier?
Eh ben, j'écoute les experts parce que figurez-vous que
les avis.
C'est mon deuxième millésime, le 2017. Donc, effectivement, j'ai pas le recul des années pour l'évaluer, mais oui, c'est ce que, en ayant dégusté les vins du secteur, notamment des bouteilles un petit peu plus anciennes d'une vingtaine d'années, on espère effectivement que la dizaine d'années on puisse la passer sans trop de difficultés et puis on voit qu'on gagne un petit peu en complexité au fur et à mesure. Et Laurent faisait tout à l'heure écho à effectivement au 2016, donc le premier millésime qu'il avait goûté parmi les premiers. Et effectivement, le côté boisé qu'il pouvait y avoir, c'était le premier millésime, il y avait un peu plus de barriques neuves, forcément, on avait commencé. Donc ça se fond un petit peu au fur et à mesure. Et effectivement, c'est un vin qu'on a travaillé en allant chercher quand même un petit peu de concentration. Pour qu'il puisse s'exprimer dans le temps et gagner au fur et à mesure. Donc dans les retours même des critiques qui peuvent goûter le vin en général, c'est ce qu'on entend, quoi. 10-15 ans, à suivre.
Alors à suivre. Merci pour la transition. On va finir cet entretien en parlant peut-être de vos projets d'avenir. Il y a cette cuvée, vous la voyez évoluer. Vous avez envie de la prolonger dans cette lignée-là et les autres cuvées. Vous avez des envies. Vous allez en arrêter, en démarrer d'autres parce que là vous partez sur. Enfin, vous êtes d'emblée parti sur plusieurs lignes de vin. Est-ce que voilà, vous avez déjà des envies de changer, d'intégrer des nouvelles vignes, de quels sont les projets ou à court terme, hein, si vous voulez, hein, 2021, qu'est-ce qui va se passer au Mascombarella?
Et ben 2021, il va se passer des choses effectivement. Donc on a parlé des cépages tout à l'heure et je vous ai parlé des surgreffages, donc des nouveaux cépages qui arrivaient. Et donc j'ai deux nouvelles cuvées qui viennent s'ajouter à la gamme. Une en rouge, donc autour du Mourvèdre dont je parlais tout à l'heure. Donc la cuvée va s'appeler Lueur d'Espar. Donc l'Espar étant un des noms locaux du Mourvèdre qui était plutôt un nom ancien. Et donc Lueur d'Espar 2018 va sortir en 2021. Donc on l'a encore un petit peu plus travaillé. Oui. Donc micro cuvée pour commencer, il va y avoir autour de 600 bouteilles et les bouteilles sont prêtes, on les laisse.
Je crois que Laurent va en demander une petite douzaine là si c'est possible.
Il va demander
pour lui, ça va finir.
C'est sympa, merci Patrice.
Bon, pas de volonté de faire un petit Carignan blanc en monocépage.
Alors le Carignan blanc,
vas-y, raconte-nous un peu.
Oui, non, j'ai une deuxième cuvée de blanc qui va arriver également. Alors, il s'est trouvé que normalement, je devais le faire en 2019. Et 2019 a été une année compliquée pour nous en termes climatiques. On a eu un gros coup de chaud fin juin où la température a dépassé les 45 degrés. Donc, on a eu des pertes, des raisins qui ont grillé, etc. Des choses qui ont mûri après de manière plus ou moins ordonné. On a réussi à gérer, mais sur les blancs que j'avais surgreffé qui rentraient en production, j'avais un projet et donc j'ai dû y renoncer en 2019. J'ai mis tous les cépages ensemble, donc ça m'a fait une cuvée qu'on a appelée Caprice avec, à cause des caprices de la nature qui a son intérêt mais qui n'était pas l'objectif initial. Et en fait, en blanc, je travaille une deuxième cuvée autour du Carignan blanc et du Chenin. Et donc ça, je l'ai faite en 2020 et elle va sortir sûrement en 2022. Voilà, ça va dépendre un petit peu de l'évolution du vin. C'est le début, mais bon.
Dans le coin, il y a Alain Chabanon qui fait des choses un peu dans ce style-là sur Vermentino Chenin et entre autres. Il y a pas mal d'expérience autour du Chenin dans les terrasses et dans la zone des terrasses, on va dire. Enfin, d'expérience créative.
Ben c'est un cépage qui se plaît bien chez nous, comme vous le disiez dans la dégustation. On a cette fraîcheur en fait qui nous vient du Larzac. Donc on est dans l'Hérault, on est dans la vallée de l'Hérault. On est à 30-40 km de la mer à peu près, une quarantaine plutôt. On a cette influence méditerranéenne qui nous amène de la chaleur en journée pendant la période de maturation des raisins. Et par contre, en soirée et la nuit en particulier, on a le froid qui redescend du plateau du Larzac qui est au-dessus, qui domine à peu près à 1000 mètres d'altitude, juste au-dessus, et qui redescend tout doucement un petit peu dans toute cette appellation des terrasses du Larzac. Et donc, ce qui nous permet d'avoir des amplitudes de température assez importantes. On perd à peu près une vingtaine de degrés entre le jour et la nuit. Donc, ça, en journée, ça peut monter, on va dire au mois de juillet, ça va monter à peu près à 35. Et la nuit, ça baisse, ça rafraîchit bien et on se retrouve à peu près à 15 degrés. Donc, ça permet aux raisins de garder cette fraîcheur, en fait. Ça dégrade pas les acidités. On repart sur des bases un petit peu plus équilibrées en alternance entre le jour et la nuit. Et ce qui se retrouve dans les vins, donc dans les rouges et dans les blancs également, qui ont leur intérêt. Et donc, des cépages comme le Carignan blanc ont une acidité naturelle, mais un cépage comme le Chenin qui n'est pas forcément le cépage du secteur initialement, mais qui est un super cépage de terroir, et ben se montre assez intéressant chez nous. Et effectivement, il y a un certain nombre de vignerons qui l'explorent et qui en font des belles cuvées. Donc ça amène de la complexité, ça amène de la fraîcheur. C'est un cépage plutôt élégant et qu'on retrouve dans la région et en particulier dans l'appellation des terrasses du Larzac, qui un jour arrivera également en blanc. On l'espère et on y travaille.
J'imagine que vous militez là-dessus, oui. Bah en fait, Limoux prouve bien qu'on peut faire des très jolies choses avec le Chenin dans le Languedoc.
Hein. Oui, tout à fait.
Avec des altitudes, des fraîcheurs, enfin, oui, voilà, c'est ça, c'est une question d'altitude, quoi.
Parce que l'appellation Terrasse du Larzac n'existe qu'en rouge et pas en blanc, hein. C'est ça qu'on doit préciser.
Elle existe qu'en rouge depuis 2014, oui. Donc c'est pas si vieux que ça. Et en blanc, on a un dossier qui est en cours. Donc ça prend un petit peu de temps et effectivement la définition des cépages fait partie de voilà des sujets. Le Chenin n'étant pas un cépage reconnu dans les AOC du Languedoc, c'est un petit peu plus difficile voilà, faut un petit peu faire évoluer les mentalités. Il est autorisé effectivement sur l'appellation Limoux, mais c'est une exception. Donc c'est un dossier en cours, mais bon, on a bon espoir et ça aurait toute sa place, tout son intérêt. Après, si ça peut pas rentrer dans les critères des AOC, ben on fait des vins en IGP
et ça marche bien, on
ne travaille en rien l'appellation, on est juste en complément, on s'adapte aux situations et ça permet. On est dans une région où je dirais on est moins figé qu'en Bourgogne ou que dans le Bordelais où les choses sont plus ancestrales, plus anciennes. Ici, c'est quand même des régions qui se sont reformées depuis, en tout cas sur le plan viticole depuis une trentaine d'années. Et le côté créatif qu'il peut y avoir des différents vignerons, enfin des deux, trois dernières décennies fait qu'on continue. Il y a un esprit de découverte et d'ouverture qui fait qu'on peut explorer, on peut se faire plaisir. Et on est un petit peu moins rigide sur toutes ces choses-là. Et effectivement, les clients, les dégustateurs, les ambassadeurs de nos domaines suivent de toute façon autour du goût plus que des carcans qui pourraient être imposés, quoi.
J'ai une dernière question pour toi, Olivier. Combien coûte un hectare de vigne en terrasse du Larzac aujourd'hui?
Il faudrait que je me renseigne exactement aujourd'hui.
Il a acheté il y a 4 ans, lui, c'est plus.
Si. Non, mais je peux dire. Moi, à l'époque où j'ai acheté, j'ai dû les acheter autour de 16 000 euros l'hectare.
D'accord.
Je crois qu'aujourd'hui, ça vaut à peu près le double.
Ah oui, donc en 4 ans, là, déjà, ouais.
En fait,
c'est vrai qu'on parle des terrasses du Larzac depuis plusieurs années. Comme
Il me semble avoir retenu cet été qu'en 10 ans, le nombre de domaines s'était multiplié par 20. J'ai un truc de folie. Enfin,
c'est la conversion de beaucoup qui amenait à la coopérative et qui maintenant domaines.
Oui, de caves particulières
qui remplacent les coopératives.
Qui se sont créées, un truc hallucinant, non?
Ben, il y a à la fois les néo-vignerons comme moi qui sont arrivés, donc on est quelques-uns quand même à s'être installés là dans les... En gros, dans les terrasses du Larzac, on est une centaine de vignerons. Dans les 100 vignerons, je crois qu'il doit y en avoir 30 ou 40 qui sont installés sur les 5 dernières années.
C'est les Parisiens qui ont fait monter les prix, quoi, comme d'hab.
Bah, ça fait monter les prix. Oui, c'est un jeu d'offres et demandes. Après, en relatif par rapport à d'autres régions, ça reste beaucoup plus abordable. Oui. Le Pic Saint-Loup chez nous, c'est encore le double par rapport à ça, je crois. Après, les Minervois, les Corbières sont des secteurs, où c'est plus facile de trouver des vignes encore qui peuvent tourner autour de 10 000 euros l'hectare. Mais dans l'ensemble, les choses évoluent un petit peu. Même si, proportionnellement par rapport à d'autres régions, c'est plus abordable. Donc,
Laurent voudrait savoir si tu peux mettre un hectare de côté aussi pour lui.
Merci beaucoup.
Ouais, il est allé un peu loin par rapport à mes ambitions.
Merci beaucoup, Olivier Faucon. Bravo pour.
Et bien, merci à vous.
Pour ce parcours, bravo pour ces vins qu'on a beaucoup de plaisir à boire. L'ode aux ignorants. Qu'on trouve. Il y a aussi les vins, c'est des vins qu'on trouve assez facilement quand même. On peut les acheter au domaine, j'imagine. On les trouve au Wine Therapy. On les trouve dans pas mal de cavistes. Je vais pas citer de chaîne, mais on le trouve.
Alors, est-ce que c'est réaliste de dire qu'il est entre 20 et 25 euros sur Paris?
Oui, c'est ça, exactement.
J'imagine que c'est la fourchette de prix classique.
Exactement.
Sur ce vin.
Tout à fait.
Une bien belle bouteille pour se faire plaisir. On la mangerait avec quoi? Et ce sera vraiment la fin parce qu'il faut
la boire. Oui.
Qu'on la mange avec. À notre invité, qu'est-ce qu'on mange avec?
On peut manger beaucoup. Beaucoup de choses, on va manger, on va y accorder des viandes un petit peu travaillées, donc ça peut être des tournes d'eau, ça peut être des grillades, on peut faire une belle côte à l'os avec, et puis sur les fromages également, pour ceux qui aiment les rouges sur les fromages, des fromages avec un petit peu de caractère, ça peut offrir d'autres alternatives.
C'est un grand débat ici, les rouges sur les fromages. On va pas le refaire maintenant. Il y a des fervents défenseurs, des blancs sur les fromages. Mais
j'en fais partie.
Bon. Moi, j'avoue que je n'ai pas encore tranché. Merci infiniment, Olivier. Bonne continuation.
Merci à vous.
Bonne année 2021. Les vendanges 2020 se sont bien passées.
Les vendanges 2020.
Parce qu'on va en parler juste après. Oui, je relance. Oui. Laurent me fait signe que tu t'arrêtes et puis tu relances, mais oui, c'est mon défaut. Donc, dites-nous que ça s'est bien passé.
Les vendanges 2020 se sont bien passées. En 5 ans, ça a été ma meilleure vendange. J'ai eu des aléas sur les 4 précédents. Mais comme je disais, je cherche la qualité plus que la quantité. Donc, j'ai toujours eu la qualité. Donc, j'ai toujours été content. Et en 2020, j'ai eu les deux. J'ai eu la qualité et la quantité. On a eu de la pluie, en fait. Dans notre secteur, on a eu de la pluie au mois d'août. Donc, les raisins ont moins séché que d'habitude. On a gardé une forme de fraîcheur. On a gardé un équilibre. Donc, pour moi, le mot-clé, c'est équilibré, quoi. Ça a fermenté comme il fallait. Tout s'est bien équilibré. Et on est ravis. Voilà.
Et on est impatients de les goûter. Bonne continuation.
Laissons le temps au temps.
Merci.
Merci, Olivier. À bientôt.
Ciao, Olivier.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Bon, formidable. Moi, j'adore ce vin. J'aime beaucoup le discours du garçon. Et puis, on est projeté terrasse du Larzac.
Je suis content de vous avoir fait partager ça. Moi, c'est effectivement, ça fait partie des domaines avec qui j'aime bien travailler. Et puis, dont j'aime bien boire les vins.
Alors, On a un programme qui est un peu fouillis aujourd'hui. Hein. Je vous l'ai déjà dit, je le redis. On veut faire nos coups de cœur et nos bilans, et un bilan de l'année. Alors ce que je vous propose, parce qu'on a pris un peu de retard, hein, c'est pas comme si on était habitué, mais on a pris un peu de retard parce qu'on a un deuxième invité, figurez-vous. Avec qui, pour le coup, on va parler de bilan. J'appelle l'invité numéro 2. Et après, on fera que des coups de cœur jusqu'à la fin de l'émission. Mais là, comme je lui ai donné une heure pour l'appeler, j'ai pas envie de le faire patienter plus longtemps. J'adore quand ça sonne. On dirait qu'on
ça fait la mallette, non.
La valise RTL. La valise. Bonjour. Allô, Romain Becker.
Bonjour, la valise RTL.
Est-ce que vous connaissez Bonjour. Le montant de la valise? Comment ça va?
Ça va, et vous?
Bah écoute, moi
Bonjour
ça va bien.
Salut Romain.
Alors, Romain Becker, c'est quelqu'un que tout le monde connaît peut-être pas comme ça, mais je vais le présenter très vite. Tu as plusieurs casquettes et on t'appelle plus pour une casquette, mais on va parler des trois, on va dire. D'abord, tu es un winecaster comme nous. C'est toi qui as créé le Bon Grain de l'Ivresse avec tes deux petits camarades.
Ouais, Antoine et Florian, c'est ça.
Antoine et Florian, Exactement. Pardon. Et voilà, donc bravo déjà pour ce Winecast. On a eu l'occasion de se croiser lors de la soirée Winecaster qu'on avait faite. On a toujours en tête de faire un jour un petit crossover entre les deux émissions. Ouais. Aujourd'hui, on t'appelle plus sur la deuxième casquette qui est celle de Vendange Solidaire, une association dont on avait déjà parlé dans La Terre à Boire. On avait reçu Aurélie Soubiran pour nous parler de cette association qui vient en aide donc aux vignerons qui connaissent des aléas climatiques. Enfin, tu vas nous en dire un peu plus. Oui. Et puis, je garde la troisième casquette parce que je crois que tu t'occupes un petit peu de la communication d'une appellation et on se garde ça pour plus tard, pour le conseil vin, si tu veux bien. Ça te va?
Ok, ça me va.
Alors, parle-nous de Vendange Solidaire. Ce qu'on se disait, c'est cette année 2020, elle est quand même un peu à part. Les restaurants sont restés fermés une bonne partie de l'année, les bars aussi pour une partie de l'année. les vignerons, les cavistes, là, dernièrement, sont ouverts. Visiblement, ça tourne bien. Quel bilan en tire du point de vue des vignerons? Et vous, peut-être tu vas commencer par nous présenter Vendange Solidaire, parce que comme je l'ai dit, vous intervenez d'habitude plutôt pour aider les vignerons dans des problèmes qu'ils rencontrent dans la culture. Voilà. Rappelle-nous un petit peu l'objet de l'association et qu'est-ce que vous faites concrètement?
Ouais, bah, Vendange Solidaire, c'est une association qui existe depuis 2016. L'idée, c'est d'essayer d'aider, dans une perspective de changement climatique, d'aider les vigneronnes et les vignerons qui sont touchés par, comme tu l'as dit, les aléas climatiques. Ça peut être les coups de chaud, le gel, la grêle et tout un tas d'autres choses. Et nous, on se concentre principalement sur les jeunes domaines. Nos critères, c'est avoir perdu en gros 70% de sa récolte et exister depuis moins de 10 ans. Donc c'est des domaines qui sont très fragiles, qui sont encore en train de se lancer. On a coutume de dire qu'il faut une dizaine d'années pour pérenniser un modèle, et c'est avec eux qu'on intervient. Donc
continue.
Non, j'allais dire cette année en 2020. Donc nous, on aide les gens avec une année de décalage. Donc c'est les aléas climatiques qui sont intervenus en 2019 pour lesquels on a eu des sollicitations cette année. Et on a été plutôt peu sollicité. On a aidé en direct un domaine qui est dans le Vaucluse, qui s'appelle le domaine des Passages de Marie Saïté. Voilà, donc c'est plutôt un bon signe dans un sens. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu trop de dégâts en 2019. Par contre, pour faire un petit état des lieux de 2020, je sais notamment que dans le Bordelais et à Bergerac, il y a eu des orages de grêle assez violents à la fin du printemps. Donc on s'attend quand même de ce côté-là à avoir des sollicitations pour l'année prochaine.
Alors cette année, j'ai l'impression globalement, c'est vrai qu'il y a eu les épisodes dont tu parles, mais globalement ouais. La vendange est plutôt bonne cette année. On vient de parler avec un vigneron des terrasses du Larzac, il était très content. Notre copain Philippe Viette en Beaujolais nous dit que c'est une vendange magnifique. Ça c'est plutôt satisfaisant. Par contre, les vignerons, ils ont peut-être eu un autre problème qui est l'écoulement. Est-ce que vous êtes sensibilisé par rapport à ça?
Alors c'était effectivement quelque chose dont on s'occupait pas avant, mais cette année c'est difficile de passer à côté comme tout le monde. On a été sollicité. on l'a traité un petit peu différemment parce que c'était hors de notre cahier des charges auquel on essaie de se tenir. Et en fait, cette année, on a noué un partenariat avec une plateforme de crowdfunding, de financement participatif, qui s'appelle Bluebees. Bees comme les abeilles, et qui se concentre sur des projets en agriculture bio. Et donc, on a eu deux sollicitations par des domaines qui souffraient beaucoup du Covid. Et donc, nous, on les oriente vers cette plateforme et on les accompagne pour créer leur campagne de financement participatif, aussi avec Bluebees qui apporte son aide. Et pour ces deux domaines, la campagne a été un succès. Ils ont récolté l'argent qu'ils prévoyaient, dont ils avaient besoin.
D'accord. Voilà. C'est un peu un nouveau dispositif que vous avez mis en place en vous appuyant sur une structure de financement participatif. Donc Bluebees, B-E-E-S.
S, exactement. C'est ça.
Il y a un autre point qui est problématique pour vous, c'est que je me rappelle, on avait reçu Michel Tolmer qui était en plein dans une campagne de promotion pour faire rentrer des sous à Vendanges Solidaires pour pouvoir aider les vignerons, parce que c'est quand même comme ça que ça se passe en deux temps. D'abord, il faut quand même récolter de l'argent, et 2020, compliqué parce que pas d'événement, il y a une vente aux enchères habituellement là en décembre, celle dont justement Michel Tolmer nous avait parlé avec des dessins, etc., qui étaient vendus au profit de Vendanges Solidaires, et celle-là, elle n'a pas pu avoir lieu.
Non, c'est effectivement le cas, ouais. C'est traditionnellement début décembre. Et là, cette année, comme beaucoup d'événements, on a été obligé de la repousser. Elle devrait avoir vraisemblablement lieu plutôt fin mars 2021. Donc, c'est reculer pour mieux sauter, j'espère, parce que c'est quand même pour nous, c'est quand même le très gros de notre financement qui passe par cette vente aux enchères. Et une année sans vente aux enchères, c'est un énorme trou dans le budget, et donc de l'argent qu'on ne peut pas redistribuer aux vignerons et vigneronnes dans le besoin.
Pas vraiment à voir. La vente aux enchères de Beaune a aussi été décalée, les hospices.
Bon,
c'est pas tout à fait la même comparaison, mais c'est-à-dire que les ventes aux enchères, de manière générale,
beaucoup d'argent
sont décalées. Ouais.
Ouais, c'est un problème pour beaucoup de monde, ce genre d'événement. Nous, on a aussi d'autres sources de financement qui tiennent à des événements. Il y a des événements locaux en France de gens qui veulent soutenir l'association et qui organisent des ventes, des apéritifs ou un dîner, par exemple, et qui nous reversent les bénéfices. C'est arrivé à plusieurs reprises, et ça, cette année, c'est pareil, on n'a pas pu récolter d'argent comme ça, quoi.
Alors du coup, comment vous faites? Vous allez explorer cette voie du financement participatif, des voies numériques?
Alors avec Bluebees, c'est un partenariat, donc il y a aussi, comme on accompagne les vignerons, une petite partie de la somme qui nous revient. Disons qu'on a un petit peu d'argent d'avance, et grosso modo, le fait de décaler la vente de quelques mois, c'est quelque chose qu'on peut supporter, puisque en fait on récolte les dossiers au printemps, les dossiers de financement traditionnellement, et on finance ces dossiers à peu près à l'été. Donc finalement, que la vente soit en décembre ou en mars, ça nous laisse quand même un petit peu de temps pour avoir la trésorerie nécessaire pour traiter tout ça.
Bon, très bien. Alors, Vendanges Solidaires, c'est une association dans laquelle vous êtes quatre, je crois. Il y a donc Aurélie Soubiran, j'en ai parlé, Michel Tolmer, il y a aussi Romuald Cardon, et toi, qui les a rejoints il y a deux ans, l'année dernière.
Il y a deux ans. Oui, c'est ça. Ouais, il y a un an, il y a un peu plus d'un an. Il y a deux autres personnes aussi. Il y a Julien Foin, qui est le président de l'association.
Ah, et Philippe, le président.
Philippe Lecante. Ouais, et Philippe Lecante, notre rigoureux trésorier. Voilà.
C'est important.
Qui remplit très bien son rôle.
Qui soit rigoureux. Bon, mais on soutient évidemment l'initiative de Vendanges Solidaires. Je pense que voilà, c'est intéressant que les gens s'intéressent peut-être à la vente aux enchères. Il y a des beaux dessins, il y a des choses intéressantes à acheter. Puis ça vient en soutien à des vignerons.
Ouais.
Voilà. Heureusement, j'ai envie de dire que l'année climatique n'a pas été si terrible, parce que l'année a été terrible pour d'autres raisons. Donc,
c'est déjà ça. Oui, a priori. Moi aussi, j'ai vendangé dans le Beaujolais en septembre dernier. Tous les gens que j'ai vus là-bas étaient contents. Et les retours qu'on a quand même de pas mal de régions, c'est que la vendange a été bonne. Donc, faut espérer qu'au moins de ce côté-là, ça continue, quoi.
Et puis espérer qu'en 2021, les bars et les restos rouvrent et que les gens se ruent dans les bars et les restos.
Se réaligner.
Exactement, ça serait bien à tout le monde.
À propos du bon grain de l'ivresse, comment ça se passe? Vous avez fait un. Quels sont les derniers épisodes en date, les projets, les choses que vous projetez de faire sur 2021? Ce podcast qu'on adore.
Ouais. je vous remercie merci d'en parler. Ça se passe bien, on est très contents. On vient de publier un épisode là, qui va être une petite série d'épisodes sur Lyon, donc le nord de la Bourgogne, Côte d'Auxerre, Irancy. On est également allé voir un négociant local qui produit des vins de toutes ces petites appellations là qui sont pas très connues, comme Saint-Brice, Coulanges-la-Vineuse, Bourgogne-Épineuil, mais qui sont hyper intéressantes, où il y a des vins qui ont un vrai caractère. Voilà, donc on continue à publier nos épisodes. On va bientôt enregistrer autour de Châteauneuf-du-Pape. Ça va être une nouvelle région à découvrir.
Ah, super.
C'est l'occasion de voir un peu le soleil et un peu plus de vin rouge que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà.
Vous allez sur place.
Ouais, on va sur place. Ouais. Nous, pour nos épisodes, on va toujours ouais. Chez les vignerons. L'idée, c'est
le rouge et le blanc du podcast.
Faire sentir à nos auditeurs l'atmosphère qu'il peut y avoir dans les domaines.
Oui, il a raison, Patrice. Vous êtes le rouge et le blanc du podcast, un petit peu.
Winecast.
Du winecast, les puristes.
Je ne sais pas si on est aussi bon qu'eux, mais j'accepte le compliment avec plaisir.
Non, mais c'est vrai que nous, on a plus l'habitude d'être en studio, et c'est ça qui est sympa, c'est les différences d'expérience, écouter des sons qui sont pris dans le domaine, comme tu dis, il y a une autre ambiance, une autre sonorité, et voilà, ça nous plonge au cœur des domaines, et voilà, pour moi tout ça c'est complémentaire, donc c'est ça qui est rigolo avec avec ce média. J'ai gardé la troisième casquette pour la fin. Parle-nous de la Loire volcanique.
La Loire volcanique, c'est un super collectif d'un peu plus de 30 vignerons du Massif central. Donc des appellations qui sont pas forcément sur le devant de la scène. Il y a les côtes d'Auvergne, il y a Saint-Pourçain, le Forêt et les côtes rohanaises. C'est une terre propice au Gamay. Il y a beaucoup de vignerons qui font des vins à partir de Gamay. Mais il y a aussi une diversité de cépages qui est assez étonnante. Alors il y a du Pinot Noir, il y a certains vignerons qui ont de la Syrah aussi en Auvergne. Et après il y a beaucoup de blancs, des Pinot Gris, du Chardonnay. Et pour moi un coup de cœur un peu dans cette série d'appellations, c'est les blancs qui sont faits à Saint-Pourçain, dans la région Saint-Pourçain, à partir du cépage Tressalier. Le Tressalier qui sont des vins assez vifs et vraiment c'est un cépage qu'on retrouve que dans cette région, qu'on a trouvé un moment qu'on trouvait avant en Bourgogne, qui s'appelait le Sassy, qui servait pas mal pour faire les créments notamment, mais qui a un petit peu disparu de la région et qu'on retrouve maintenant à 5% et qui, moi je trouve, s'y épanouit vraiment. Donc
je pense que
ça donne des vins
Les Côtes d'Auvergne, c'est les terrasses du Larzac des 5-10 prochaines années, quoi. C'est l'endroit qui va monter, parce qu'il y a beaucoup de vignerons et néo-vignerons qui ont une approche, si ce n'est nature, au moins bio et biodynamie. Il y a des terroirs volcaniques de ouf, donc normalement il y a une vibration de la pierre qui se retrouve dans l'eau du vin.
Exactement.
Et voilà, et donc bon, il y a déjà les Côtes Rouennaises qui sont en plein boom avec Potier, Domaine Sérolles, et puis le vin de la Madone aussi.
Les vins de la Madone, oui, qui sont très bons.
Ouais, bonne foi.
Je pense à Benoît Montel et Yvan Bernard en côte d'Auvergne, où là on retrouve vraiment des terroirs volcaniques, effectivement. Et moi j'aime le coup de cœur là dont je vous parlais. Je pensais à Florent Baréchard, c'est le domaine des terres d'ocre, qui fait des gamets et aussi un 100% Tressalier qui est vraiment. C'est 90% Tressalier et 10% Chardonnay, mais une cuvée qui s'appelle l'Instant T, que j'ai goûté il n'y a pas très longtemps, et je trouve un rapport qualité-prix qui est assez dingue. Ça coûte 10-11 euros, et c'est un vin qui a, qui a de la longueur, qui a de la présence. C'est vraiment excellent.
Et puis, on sent que sur la Loire volcanique, il y a un mouvement. Déjà, ce nom qui a été trouvé.
Il y a une émulation. Et puis, en fait, c'était des terroirs où la vigne est là depuis très, très longtemps. Mais les canaux du Rhône, du Bordelais, etc., toute la modernité qui a fait disparaître ces vignobles. Et c'est des vignobles en renaissance. C'est-à-dire qu'il y a un historique, il y a des terroirs. C'était des vignobles qui existaient il y a 300, 400 ans. Et puis, on va dire, les post-industriels les ont un peu mis sous les ténoirs, avec l'époque de la chimie aussi, qui a cristallisé sur les gros rendements, et puis les trucs qui se vendaient bien et qui étaient faciles à transporter, quoi. Et là, on a un retour, maintenant qu'on peut livrer avec du Amazon, etc. Enfin, je veux dire, le parcel delivery est facile. On n'est pas obligé d'être proche des voies de livraison que sont le Rhône ou le Bordeaux ou les ports. Tout ce qui va être dans le centre de la France, de manière générale, repart de manière. Voilà, mais c'est une renaissance en fait. C'est pas nouveau, c'est une renaissance. Ouais.
Effectivement, il y a quelques siècles maintenant où ça, c'était des vignobles qui étaient vraiment sur le devant de la scène et qui, avec la modernité, notamment l'arrivée du chemin de fer, ont souffert du fait qu'on ait pu transporter beaucoup plus facilement les vins du sud de la France vers Paris. Et donc qui ont lentement décliné, et après qui ont eu un petit peu le coup de grâce avec le phylloxéra, comme la plupart des régions de France. Mais il y a des régions qui sont mieux relevées que d'autres, et pour eux ça a été un petit peu plus difficile. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est que il y a des vignerons qui ont vraiment, enfin des vignerons artisans qui ont vraiment envie de faire des vins avec du caractère, avec une identité, qui ont envie de mener une viticulture propre, qui ont envie de faire parler le terroir. Et ça, c'est super intéressant de voir ce mouvement, cette dynamique et cette émulation dans ces régions.
Je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant en Loire volcanique, c'est qu'on n'est pas sur la monoculture, qu'on est sur des vignerons qui n'ont pas choisi la facilité. Donc, par définition, qui se préoccupe de faire des bons vins. Et l'époque où on devait planter des vignes en plaine et avoir des rendements intensifs, c'est complètement révolu. Et là, l'Auvergne, avec effectivement probablement des coûts à l'hectare qui sont pas très élevés, c'est un beau terroir pour s'installer comme néo-vigneron et faire des jolis vins. Moi, j'y suis passé suite à nos discussions cet été, là, début août, on a fait un petit peu de Côte d'Auvergne, un peu de Forez, un peu de Côte Rouennaise, et j'ai été complètement bluffé par les terroirs et par les personnalités des gens que j'ai rencontrés. Effectivement, c'est que des personnalités singulières qui ont envie de faire des choses super belles. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur sur la Syrah d'Yvan Bernard, donc c'est complètement atypique, il en a très peu, mais sa cuvée de Syrah est juste dingue, quoi.
Il est où, lui?
Il est en Côte d'Auvergne, je crois que ça s'appelle Montpérou, hein, le village où il est installé.
Ouais, exactement.
Bah, il en terrasse du Larzac, alors.
Moi, je me souviens de lui. Il y a plein de Montpérou en France. Ah oui, c'est ça qui est trompeur.
Les mecs connaissent tous les Montpérou.
Non, ça, c'est le Montpérou du Puy de Dôme. Et on a eu un accueil extra. On est allé se balader dans les parcelles. Et vraiment, le seul regret, c'est que, évidemment, il fait tellement peu de Syrah que, il n'en a plus. Il n'en a plus à vendre. Donc, ça a été ma petite frustration quand j'ai voulu lui commander du vin. Mais sinon, ces gamets sont très chouettes aussi. Et puis, il y a plein de domaines très, très sympa, l'accueil est génial. Ils sont vraiment contents de faire partager ce qu'ils produisent. C'est ça qui est aussi très plaisant.
C'est qu'on est accueilli. C'est des belles régions quand vous allez en Auvergne.
C'est magnifique.
Là, vous avez les volcans juste à côté des vignes, ou quand vous êtes sur les piémonts des côtes rouennaises, là, aussi au mont de la Madeleine, c'est vraiment beau en plus comme région.
À qui le dites-vous?
Oui. Et puis ouais, si
moi je suis auvergnat, alors.
Un homme du forêt.
Si on a un petit peu de temps à perdre, on peut aller faire un tour chez Trois Gros. Hein, c'est ce qu'on a fait, nous, pendant nos vacances. Ouais. Hein, c'était une jolie expérience.
C'est vrai que c'est aussi une capitale gastronomique.
Trois Gros qui a mis en avant beaucoup toutes les côtes rouennaises. Hein. Ouais, Trois Gros a beaucoup participé, Bocuse à son époque. Ouais,
mais belle carte des vins.
Trois Gros a beaucoup participé à mettre les côtes rouennaises à l'honneur.
Merci Romain. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter sur 2021, des projets, des choses qui te tiennent à cœur?
Sur 2021, oui, j'aurais voulu dire un petit mot encore pour Vendanges Solidaires, parce que jusqu'à présent, on a eu beaucoup un rôle curatif. Donc, on a aidé les vignerons qui étaient dans le besoin. Et l'année prochaine, il y a une réflexion qui est en cours pour essayer de faire davantage de préventifs. Pourquoi pas devenir une sorte de plateforme d'échange ou de partage autour des sujets du changement climatique, parce que c'est des sujets qui sont vraiment qui commencent vraiment à être prégnants et à inquiéter beaucoup de vignerons, et on aimerait les aider à anticiper ou en tout cas à suivre à mettre en place les changements nécessaires dans leur vignoble par du partage d'expérience, par pourquoi pas faire de la veille sur des publications. C'est quelque chose qui est pour l'instant encore au stade embryonnaire, mais on sent qu'il y a un besoin et on aimerait bien faire quelque chose dans ce sens-là. Ça nous paraît important pour tous les vignerons et vigneronnes, et éviter qu'ils soient trop impactés à l'avenir par les changements actuels.
Alors, en effet, on sent bien que ce sujet-là n'est plus est une vraie réalité auxquelles les vignerons sont confrontés chaque année, quoi. Les gros épisodes de sécheresse, donc la collaboration, le partage d'expérience, oui, je trouve que c'est une bonne idée effectivement d'essayer de travailler en amont plutôt que en plus du fait de venir en aide à ceux qui ont souffert de ces aléas. Bravo pour ce travail-là, hein, parce que voilà, c'est une association qui est très active et reconnue et connue des vignerons, dont on parle peut-être pas assez dans la presse, etc. Mais voilà, c'est un travail, je pense, qui est utile pour
merci de mettre le monde du vin. Merci de mettre un petit coup de lumière sur nous, parce que on a besoin d'être un peu plus connus, on a besoin que des gens adhèrent à l'association pour la faire grandir. Voilà, donc. Je suis très heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous ce soir.
C'est sympa. Merci Romain. Et puis on essaie de se voir pour de vrai, hein, un de ces jours, chez Laurent peut-être.
Chez Laurent, oui, avec grand plaisir.
Quand tu vas rouvrir, tu rouvres quand toi?
Dès que ça sera possible.
15 décembre.
C'est quoi l'espérance? C'est quoi l'espérance raisonnable?
Janvier.
C'est quoi l'espérance raisonnable?
20 janvier plutôt, non?
20 janvier, mais est-ce que c'est vraiment pertinent? J'en sais rien. Bon.
Rien que pour nous, déjà, c'est pertinent. Mais après, c'est peut-être hyper subjectif quand même.
On peut faire des soirées privées à ce rythme-là.
On a très envie de boire des coups, Laurent. Donc, ça paraît vraiment...
Bon, alors, je vais faire un effort. Je vais appeler Manu.
Allez. C'est notre troisième invité. Merci, Romain.
Maintenant, vous me le dites, j'aurais peut-être dû le faire avant.
Bonne continuation dans tes multiples casquettes. C'est épatant de faire tout ça. Et on continue évidemment à suivre Le Bon Grain de l'Ivresse. Donner, adhérer, acheter des choses pour soutenir Vendanges Solidaires. Et puis, aller découvrir ces nouveaux terroirs de la Loire volcanique. Je dois dire qu'il y a, en termes de communication, il y a aussi beaucoup de réactivité, parce que là il devait y avoir des salons qui ont évidemment été tous annulés, des réunions de présentation, et finalement vous avez opté pour des formules où vous envoyez des kits de dégustation à des moi j'ai vu ça sur Instagram, Laurent, à des influenceurs et des critiques. Pour tout dire, je vais être honnête, je dois en recevoir un kit pour la Terre à Boire, donc vous allez en profiter pour pouvoir découvrir.
Tu l'as pas encore reçu, si ça t'a demandé,
c'est
pour ça qu'on parle.
Je l'ai pas reçu, mais c'est pas grave, et on en parlera. Et comme on a fait une spéciale sur une appellation comme Grignon qu'on aimait bien, je pense que sur Loire volcanique,
temps de faire quelque chose sur Loire volcanique,
il y aura des choses.
C'est trop vaste, faut 5 émissions, mais on peut partir sur 5 émissions effectivement.
Ouais. Il faut serrer un petit peu et choisir nos thèmes. En voilà des objets de réjouissance pour. 2021.
On est bien pour 2021 là.
On est bien.
C'est la deuxième partie du titre, hein, c'est ça.
C'est ça. Salut Romain.
Salut, à très bientôt.
Allez, à bientôt. Merci encore. Ciao.
Merci.
Alors, effectivement, cet épisode est fleuve. Et ce que je vous propose, c'est qu'on dise qu'il y a une moitié, il y a une mi-temps. Et la mi-temps, c'est maintenant. Et on va reprendre pour la deuxième mi-temps, qui sera donc un deuxième épisode, mais qui sera la deuxième partie de celui-ci. Et on va découvrir encore 3 vins, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compté. 2 vins plus une surprise.
On hésite entre 3 et 16, mais bon, là, on va rester sur 3.
Oui, c'est-à-dire que bon, je suis bien en voiture.
Allez, petite pause, à tout à l'heure.